good evening, bienvenue sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles. Et là, je me rends compte, ça fait longtemps que je suis pas venue à la radio, je suis partie trop longtemps.
Ah oui, pareil, ça fait un moment que je suis pas venue non plus.
Due to unforeseen difficulties, this program maker is not available now, so we pause for a musical break.
C'est quoi? Ça passe pas à la radio, hein.
Bonsoir, vous êtes bien sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles à Auckland. Et ce soir, nous avons à l'antenne, avec quelques petites minutes de retard, nous avons Fred.
Et Victor, le roi de la technique. Allez Victor.
Qui a réussi à nous débloquer les micros. On avait un peu de difficultés techniques, mais nous revoilà à l'antenne. Alors ce soir, on va vous parler de quelques de fact-checking en fait. Alors j'ai essayé de traduire en français et on appelle ça vérificateur d'informations. Voilà. Donc on a fait quelques petites recherches suite à une longue conversation nocturne
entre David,
Fred et moi-même Virginie. Et donc on a décidé, tiens, on allait faire une petite émission sur les vérificateurs d'informations et de faits. Alors on va commencer ce programme avec une petite musique. Fred, qu'est-ce qu'on met pour commencer?
Alors pour être dans le thème, on va commencer par Sans contrefaçon de Mylène Farmer.
Ah oui, tiens, ça me rappelle ma jeunesse.
Voilà, on fait dans le moderne, hein, puisque c'est un peu ringard, en fait, de vérifier les faits aussi.
Bah oui, mais c'est pas grave. Voilà. Faut bien être ringarde.
Vas-y, sans contrefaçon.
We'll be right back.
Voilà, Mylène Farmer, sans contrefaçon, pour nous rappeler notre jeunesse à Virginie et à moi. Et en fait, ça m'a fait penser que pourquoi Mylène Farmer avait été particulièrement outrée, parce qu'en fait, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait utilisé un de ses sosies pour un truc de campagne. Pour un de ses meetings de campagne, et en fait elle avait été choquée parce qu'elle avait dit qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser son image, et donc parce que quelque part c'était un mensonge, donc ça m'a rappelé ça.
Et alors moi parlons de fact-checking. Moi je me souviens il y a quelques années, je travaillais dans un spectacle la nuit dans les Pays de la Loire. Et il y avait un des ingénieurs qui avait beaucoup travaillé avec elle. Et donc, on parlait justement des stars, des célébrités, des histoires. Et en fait, déjà à l'époque, on parlait de, si tu te souviens, Fred, du mariage entre Pierre Palmade Véronique Sanson.
Oui.
Qui, à l'époque, n'avait pas encore été... l'homosexualité de Pierre Palmade, n'avait pas encore été mis en avant. Mais en tout cas, à cette époque-là... personne c'était un mariage tout ce qui avait de plus normal, et ce monsieur en fait nous avait parlé de ce truc en disant leur mariage c'est un faux, ça n'existe pas, leur histoire n'existe pas, etc. Et donc quelques années plus tard, effectivement, la vérité est sortie, leur mariage n'était pas vraiment un mariage comme les autres. Et donc il parlait de Mylène Farmer, et je disais mais c'est Mylène Farmer, elle a cette réputation, elle est pas un peu bizarre, elle se cache toujours des médias, et à cette époque-là, il m'avait dit, méfie-toi de ce que disent les médias, parce qu'en fait, il y a beaucoup, dans le milieu artistique, énormément est fait autour de l'image. Mmh. Et je me souviens qu'il m'avait dit, elle est pas du tout comme tu l'imagines, c'est quelqu'un de très très simple, mais en tout cas, méfie-toi bien de ce que les médias te racontent, parce que vraiment, ils créent une image autour d'un artiste. Et effectivement, avec pas mal d'années de recul, c'est vrai que maintenant ça a beaucoup plus de sens. À cette époque-là, j'étais encore un peu plus jeune, je devais avoir 19 ans, et ça me parlait pas beaucoup, mais en tout cas ça me parle beaucoup plus maintenant.
Et donc on en est à vérifier l'information. Pourquoi est-ce qu'on doit vérifier l'information? Et donc moi, j'ai commencé ma réflexion par se demander, enfin notamment donc maintenant l'Angleterre, enfin les Royaumes-Unis à Boris Johnson comme Premier ministre, et puis pour moi un des plus grands menteurs de tous les temps, c'est quand même Trump. Donc j'ai commencé par un peu googler, puisque c'est ma façon de vérifier l'information, c'est utiliser Google, et c'est de demander à ce cher ami Google combien de mensonges a fait Trump depuis qu'il est président. Alors, quelqu'un veut-il, Victor ou Virginie, vous avez envie de donner un chiffre?
Oh, je vais donner l'honneur à Victor.
Vas-y, Victor.
Je sais pas, 500.
Ah, ok, un peu plus, en fait. Depuis qu'il est président, donc ça fait 2 ans et demi.
Oh, je dirais 1500. Je pense qu'il n'est pas timide au niveau
des
mensonges.
Alors, d'après un article du Washington Post que j'ai lu, il en est au 7 juin, il en était à son 10 796, donc à 10 796 mensonges ou faux messages, enfin ou vérités falsifiées diverses et variées. Donc, il a passé le cap des 10 000 le 26 juin. Et donc, le 26 avril, pardon. Et donc, ça fait environ à peu près 16 vérités falsifiées par jour, à peu près. Et un cinquième, bien sûr, est sur le sujet de... Devinez. À propos de quoi est-ce qu'il ment le plus, Donald Trump? Ou il arrange la vérité, on va dire?
Bon, les États-Unis.
L'immigration.
Ah oui, l'immigration. Oui.
Donc, son favori, c'est quand même que le mur est en train d'être construit.
Donc, le fameux mur.
Le fameux mur. Donc voilà. Et donc en fait, Donald Trump arrange la vérité. Et en fait, aux États-Unis, c'est relativement facile de vérifier l'information parce qu'en fait, il y a des sites dédiés. Et donc, par exemple, le Washington Post, là, dans leur article, ils citent un site qui est dédié à vérifier les faits politiques et ça s'appelle factcheck.org. Mm-hmm. Et donc, ils ont, en fait, c'est une collection de journalistes qui vraiment vont décortiquer des discours politiques et tout ce qui est annoncé pour essayer ils décortiquent la vérité. Donc ils vont par exemple dire, par exemple si vous dites il y a 25% des gens qui traversent la rue au feu rouge, ils vont aller chercher la statistique et ils vont dire c'est plus ou moins vrai mais c'est que 19% en fait.
Alors le Washington Post, ils ont une équipe de fact-checkers comme il y en a quand même beaucoup dans les on va dire dans les journaux qui ont beaucoup de crédibilité, on va dire, en général, ils essaient de vérifier. Je crois me souvenir qu'ils remettent tous les ans les Pinocchio, je crois. Donc, et je crois en 2008, six des Pinocchio qu'ils avaient remis, c'était sur Trump et les mensonges de Trump.
En 2018
ou en 2000, ils n'ont pas encore fait 2019, mais en 2018, donc les derniers, ils ont remis 6 sur 10, c'était à Trump.
Et donc, et alors l'autre site aux États-Unis, il s'appelle PolitiFact.
Oui, c'est celui que je connais aussi.
Ouais, voilà. Et donc c'est un site relativement bien fait. Enfin, pour la politique américaine. Donc ils décortiquent. Et donc ils disent c'est vraiment faux, c'est plus ou moins vrai ou c'est vrai. Et notamment par exemple quand les hommes politiques pour discréditer un homme politique ou une autre femme politique, en fait, leur font dire quelque chose et c'est très typique ça en politique, c'est de sortir deux phrases sur tout un discours et de les mettre bout à bout. Et donc, en fait, ça fait dire à quelqu'un complètement une chose complètement différente.
Oui, une partie de la phrase, oui. C'est,
oui, oui.
Donc, au lieu de dire, par exemple, John Major a dit ça, on dit les Anglais ont dit que. Quelque chose comme ça.
Oui, ou bien c'est par exemple en enlevant une partie de la phrase, quoi. Mm-hmm. Donc c'est des sites assez bien faits. Et alors j'ai un peu été regarder pour savoir si on avait la même chose en Nouvelle-Zélande. Et en fait en 2014 il y avait une série de journalistes qui avaient essayé de mettre en place un site similaire, mais ça a l'air d'avoir duré que quelques mois et donc c'est tombé en désuétude. Et donc j'ai pas trouvé un site similaire donc où il y a des journalistes qui s'occupent d'essayer de rétablir la vérité. Alors bon, on n'a pas de menteur comme Donald Trump en Nouvelle-Zélande, enfin j'espère en tout cas.
Mais je pense que c'est peut-être lié au fait que c'est un petit pays.
Oui, mais en discutant avec certains journalistes, en fait, un des gros problèmes du journalisme, c'est que c'est le manque de moyens. Donc par exemple, j'avais discuté une fois avec un journaliste du Herald, et elle disait, c'est que le nombre d'articles qu'on leur demande par semaine a plus que doublé en quelques années. Et donc, en fait, ils ont plus autant le temps d'approfondir les nouvelles. Donc, c'est vrai que parfois, ils prennent des raccourcis. Et du coup, notamment, par exemple, ils repiquent certains articles ils n'ont pas le temps de faire du bon journalisme parce qu'on leur demande trop. Mm-hmm. Et c'est notamment parce qu'il n'y a pas de subsides. Et le Herald, pendant tout un temps, était libre d'accès. Et donc, ça veut dire que, en fait, il n'y a plus beaucoup d'argent, enfin de moyens pour les journalistes de faire du vrai journalisme. Et c'est vraiment un gros problème, moi, je trouve, parce que quand on regarde par exemple la campagne pour le Brexit, bon, c'est vrai que c'était il y a 2 ans, c'est une vieille histoire, n'empêche qu'ils ont toujours pas résolu leur problème. Et ça a été fondé sur des mensonges que les gens auraient pu. Et les gens, de manière générale, ne vérifient pas bien l'information. Par exemple, c'est 350 millions. Sur le bus, là, les 350 millions que les Royaumes-Unis, soi-disant, donnaient à l'Europe pour rien et qui allaient servir à refinancer le service de soins de santé, c'était un mensonge. Il n'existait pas ces 350 millions. D'ailleurs, le bus a disparu très vite et après, Farage, il a reconnu qu'il avait menti.
Tiens, ça me fait penser d'ailleurs, pas que j'essaye de faire de la propagande politique en Nouvelle-Zélande, pas du tout. Par contre, j'ai juste vérifié l'autre jour un fait qui est quand même assez intéressant. C'est avec la loi, vous avez vu peut-être sur... Il y a des billboards, 4x3 qui sont avec des campagnes qui disent oui, on ne peut pas faire la promotion de la santé mentale et en même temps faire la promotion de la légalisation du marijuana ou un truc comme ça qui c'est sur en tout cas dans les rues d'Auckland. Et en fait, c'est quand même assez important de se rappeler que quand on parle, alors moi j'en entends beaucoup, c'est la loi de légalisation de marijuana. Et en fait, c'est pas une loi, c'est un référendum. Et en fait, c'est bien clair que le référendum, c'est juste pour savoir et avoir que pour essayer de comprendre quelle est la position des Néo-Zélandais par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu comme ça amené régulièrement au gouvernement, ce genre de questions. Est-ce que la légalisation devrait se faire, etc. Et en fait, c'est important de rappeler, donc c'est pas une loi, c'est pas que le parti Labour va mettre une loi en place et voter une loi pour ça, c'est juste un référendum pour savoir ce que les gens pensent.
Et donc après, continuer le débat, quoi.
Voilà, et en fait, c'est bien clair que si, même si le référendum est positif et que les Néo-Zélandais sont en faveur de légalisation du marijuana, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une loi. Et en parlant de fact-checking, énormément de gens avec qui j'ai parlé, il y a tout de suite un raccourci quoi, qui a été fait en disant « Oui, mais ils veulent passer une loi pour la légalisation. » Et je suis là « Mais non, c'est absolument pas. » Et en fait, c'est important, ce genre de choses.
Et en plus, ce sera pas non plus une légalisation... Enfin, c'est pas une légalisation qu'ils veulent faire passer.
Non, je pense pas aussi. D'ailleurs, je m'y connais pas assez sur le sujet, mais en tout cas, je trouve ça assez impressionnant la vitesse à laquelle vont les rumeurs tout de suite en se disant oui, mais c'est ce qui va se passer. Et ça devient tout de suite en fait un espèce. Et c'est ça qui est important sur les fact-checking, c'est que très souvent, en fait, ça fait polémique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort un peu du contexte du fait qui est discuté. Et la façon dont on va manipuler l'information, ça devient très facilement un sujet de polémique. Mmh. Et rarement, le sujet de polémique est réel. C'est ça que je vois, moi, en tout cas.
Oui, et puis c'est très vendeur. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que... je crois que... Il y a aussi le fait que quand tu dis la vérité sans l'embellir, en tant qu'homme politique notamment, eh ben, tout de suite, t'es moins drôle. Enfin, moi, je pense que ça.
Oui.
Pour moi, j'ai l'impression que quand je regarde le paysage politique, pour moi, j'ai l'impression que le tournant, ça a été les élections Chirac-Jospin. Mm-hmm. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est là que je me dis que je dois paraître très très vieille pour certains. Mais donc, en fait, pour moi, ces élections, il y avait deux candidats principaux. Il y avait Chirac et Jospin. Alors, Chirac, c'était le clown. Qui était un peu un guignol quand même. Enfin, pour moi, je trouvais qu'il avait l'air un peu d'un guignol. Et il y avait Jospin, qui était pas drôle, mais qui était sérieux. Mm-hmm. Et qui était. Et qui, à mon avis, savait ce dont il parlait, mais qui n'embellissait pas la vérité. Qui disait pas que ça allait être tout rose. Et il est même pas passé au premier tour. À la place, on a eu au deuxième. Enfin, les Français, vous. Vous avez eu au deuxième tour Chirac et Le Pen. Et en fait, et par exemple, après les élections, tout ce que Chirac a réussi à dire, c'est qu'il était super content qu'il ait passé à 85% et tout ça. D'abord, et il a même pas reconnu le fait que ça a failli être le drame en France quand même. Mm. Je veux dire, il s'est même pas remis en question que il a pas eu 85% à propos d'élection, enfin en élection normale quoi. Et pour moi c'est un moment où il y a eu le fait que il y avait d'un côté quelqu'un d'assez sérieux mais chiant, enfin pas drôle. Et puis il y avait un raciste et puis il y en avait un qui était pas mauvais mais qui était quand même à mon avis moins rigoureux. Et c'est les deux autres qui sont passés au deuxième tour. Et c'est un des tournants pour moi dans le paysage politique. Et c'est comme ça que maintenant on est, je veux dire, un gars comme Boris Johnson ou comme Farage ou comme Trump qui sont arrivés tellement haut en politique en racontant quand même n'importe quoi et en ayant des comportements assez outrageux, je trouve.
Oui, d'ailleurs, c'est pas, je me semble, faudrait regarder, mais c'est Éric Zemmour, je crois, qui avait écrit un bouquin sur Jacques Chirac, justement, pour expliquer un peu le caractère. Mais en fait, le seul truc que je dirais par rapport à ça, et pour moi, je le vois un peu différemment, c'est que je voyais, j'ai plus vu Jospin en étant plus quelqu'un qui allait plus être un personnage politique que la population urbaine allait probablement tu vois, il avait un peu un côté intellectuel, on va dire.
Ouais.
Et donc ça, je pense que c'était ça, il parlait plus à des gens plus urbains, on va dire
une certaine élite intellectuelle.
Voilà, exactement. Alors que Chirac, c'était pas nécessairement ça. Et en fait, des fois, on oublie que la France, c'est quand même un pays principalement d'agriculteurs et de gens qui vivent dans les campagnes, quoi. Et donc, forcément, entre Jospin et Chirac, c'était lui qui allait caresser les croupes des vaches au salon de l'agriculture et manger des pommes. Et forcément, il y avait un côté, je pense, qui parlait beaucoup plus aux gens qui vivent dans le milieu, dans un milieu.
C'est comme
plus,
ça que Trump s'est fait lire aussi. Hein. Il a parlé aux gens à qui il ne parlait pas.
Absolument. Et
Tout à fait.
C'est ça. Et je pense que c'est un peu pareil ici aussi en Nouvelle-Zélande, c'est que parfois on oublie. Et moi, première, hein, de vivre dans une ville comme Auckland, on a tendance à oublier que la Nouvelle-Zélande, c'est principalement la campagne.
Mais c'est aussi, je crois que c'est là où il faut arriver à faire passer les messages, à rendre l'information, je sais pas comment on peut expliquer pour que les gens aient envie de connaître la vérité sans que ça devienne barbant. Parce que c'est vrai qu'on s'en retrouve vite à donner des leçons, quoi. Mm-hmm. Tu vois? C'est vrai aussi, c'est que d'un côté, t'as des gens qui vont donner des leçons et qui ont l'air un peu pédouille. Et puis t'as celui qui va aller caresser la croupe des vaches et qui raconte parfois un peu n'importe quoi. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il est plus proche des gens.
Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a ce que je suis assez d'accord et je le vois de plus en plus, en tout cas. Il y avait ce message qu'on m'a, je sais plus si c'est un message, c'est un truc que j'avais lu, je pense. Et j'en parle assez régulièrement et je disais avant, donc je parle avant, dans les années où il n'y avait pas l'internet et où on n'avait pas toutes ces informations, ou l'accès à cette information. La clé, en fait, est la valeur qui était donnée aux gens, spécialement dans un milieu intellectuel ou un milieu de travail, on va dire. C'était l'habilité des gens à retenir un maximum d'informations et à recouper les informations au maximum. Donc c'était vraiment, finalement, l'habilité que quelqu'un avait à pouvoir s'informer de manière rigoureuse. Et en fait, aujourd'hui, à partir du moment où les informations sont tellement disponibles, c'est plus vraiment le fait de pouvoir retenir des informations, puisque les informations, il y en a tellement.
Oui.
Et elles sont vraiment accessibles. En fait, c'est devenu l'habilité que les gens ont à communiquer cette information.
Et alors aussi, je pense que c'est important que les gens apprennent à pouvoir vérifier par eux-mêmes certains faits, parce que il y a quand même beaucoup d'informations qu'il y a moyen de vérifier, mais il y a aussi des fausses informations. Il y a aussi énormément de fausses informations disponibles sur Internet.
Absolument.
Et donc en fait. C'est un autre point que je voulais aborder aussi sur comment faire des recherches et qu'est-ce qui se passe dans les moteurs de recherche aussi. On va peut-être, parce qu'on a quand même déjà parlé pendant 25 minutes, on va se passer une deuxième petite musique. Tu peux choisir, Victor. Qu'est-ce que tu vas nous mettre?
Je sais pas.
Tu veux mettre celle que tu avais choisie?
J'en ai choisi aucune.
Ah, t'en as choisi aucune. Alors mets-nous Dave. Tout en haut.
Ah oui.
C'est quoi le titre? J'arrive pas à voir d'ici.
Raconte-moi des mensonges.
Voilà, raconte-moi des mensonges de Dave.
Raconte-moi des mensonges, je préfère rêver, songer que tu es à moi. Toujours là, la vérité me fait de la peine, ta vérité n'est pas la mienne, tu n'es plus à moi. Jamais là, rappelle-toi ta promesse, ne la renie pas, le jour arrivera. Commencera. Raconte-moi des mensonges, je préfère rêver, songer que tu es à moi. Raconte-moi des mensonges, je préfère rêver, songer que tu es à moi. Toujours là.
Alors voilà. Donc raconte-moi des mensonges, Dave. Alors comme d'habitude, j'ai absolument pas écouté la musique parce qu'on a continué à causer hors antenne avec Virginie. Mais bon, c'est pas grave. Donc fact check. Donc il y a, c'est vrai que comme on disait avec Virginie juste avant, c'est que il y a énormément donc d'informations qui sont disponibles sur le net. Et donc notamment le moteur de recherche principal c'est Google. Et en fait il y a quelque chose qui a changé il y a quelques années sur Google, c'est que donc un des trucs qu'on aime vraiment bien avec Google, en tout cas enfin moi je l'aime bien, c'est que il devine un peu ce qu'on veut. Google, notamment si vous faites une faute d'orthographe, eh ben il va te donner quand même ta bonne réponse.
Ouais, Google est devin.
Ouais, Google est devin. Et en fait, ouais, Google, il est devin, ça c'est sûr. Mais aussi, à un moment donné, en fait, il y avait un problème avec le moteur de recherche de Google, c'est qu'en fait, comme il est devin, il sait ce que tu veux et il sait ce que tu cherches. Et donc, par exemple, la première fois que j'avais entendu parler de ça, c'était il y a 3-4 ans. Notamment, c'était des infirmières qui s'occupaient de jeunes drogués. Et en fait, un de leurs problèmes, c'est que les adolescents cherchaient sur Google si c'était possible de prendre de la drogue une fois ou deux et de s'en sortir quand même, de pas devenir complètement dépendant. Et en fait, oui, il y a des gens qui disent ça sur le net. Ça va peut-être être 1% des gens qui en parlent par rapport aux 99%. Mais comme Google sait que ça va correspondre plus à ton profil, en fait, c'est ce qui va sortir en premier dans les recherches. Et donc, en fait, c'était il y a 3 ou 4 ans, ils ont dû rechanger leur algorithme de recherche, donc pour que Google ait devin, mais en fait, ils font quand même maintenant le numéro 1, c'est la vérité. Donc c'est que ça va s'il y a 99% des réponses qui sont si tu prends une fois de la drogue, tu seras un drogué. Ça va passer en premier, même si ils savent que la personne voudrait recevoir l'autre réponse.
Alors j'aurais tendance à dire heureusement.
Heureusement, mais avant c'était pas le cas.
Donc c'est en fait
et donc en fait ça renforçait les gens à penser ce qu'ils pensaient donc maintenant ils ont mis en priorité la vérité, mais il faut encore quand même se méfier dans avec le moteur de recherche, et donc c'est pour ça qu'il y a d'autres moteurs de recherche qui n'utilisent aucune de tes informations et qui donc te mettent uniquement en par ordre de vérité, quoi. Alors comme DuckDuckGo, je crois.
Ça m'amène justement à cet article dont je te parlais, c'est une recherche qui avait été faite par Stanford History Education Group, ça s'appelle Chegg. Leur idée, c'est comment les trois questions qu'il faut se poser pour finalement pas nécessairement vérifier, mais en tout cas pas vérifier l'information, mais vérifier que l'information est
plausible.
Plausible, voilà. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est qui est derrière cette information. Alors est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est une promotion? Que ça aussi c'est important, les promotions, et en fait c'est surtout, je vois au niveau des produits cosmétiques. Alors ça se fait énormément maintenant, c'est-à-dire que vous avez un produit, quelqu'un qui vous met une revue sur le produit, mais en fait c'est quelqu'un qui est payé par la marque pour donner des revues. Alors voilà, est-ce que c'est une promotion ou est-ce que c'est une source anonyme sur les réseaux sociaux? En fait, ce qui est super important, c'est de savoir est-ce que cette personne ou est-ce que la source de l'information est influencée par leur propre agenda. Et en fait, ils expliquent que, justement, ce que tu disais, justement, avec Google, c'est que si l'on veut passer une information si on veut convaincre les autres, on va trouver n'importe quelle manière de convaincre les gens. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de savoir si finalement la source est neutre ou influencée. Donc déjà, ça, c'est une des premières questions. C'est de se poser cette question, tout simplement. La deuxième, c'est de savoir...
Donc, si c'est un homme politique, déjà, il faut se méfier, quoi.
Par exemple, oui. C'est exactement. C'est si on est en campagne présidentielle, il faut bien se douter qu'il y a peut-être des intérêts politiques et financiers derrière, forcément.
Mais par exemple, les faits très, très simples, comme les chiffres, ça, c'est un truc que Google, ils ont toute une série de stats, notamment si vous voulez vérifier le PIB, le GDP, combien de taxes... telle catégorie de la population et toutes ces choses-là. Ça, c'est le genre d'information. Google, ils ont des graphiques. Et par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a Statistique New Zealand qui est très, très bien fait aussi. Enfin, il faut un peu chercher.
Mais plus simple d'utiliser Statistique New Zealand avant, je trouve.
Ouais. Mais en fait, il y a pas mal de sites, et notamment, et alors et certains sites de l'Union européenne aussi. En fait, il y a énormément de chiffres là-dessus. Et donc, ça, c'est assez facile de voir. Ça prend un peu de temps, mais il y a moyen de les trouver facilement, ces chiffres, une fois qu'on a un peu l'habitude de regarder.
Alors, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les évidences pour soutenir l'information? Alors, il y a deux questions à se poser sous cette question. Deux questions sous-jacentes. La première, c'est est-ce que la source a donné les évidences? Est-ce qu'ils ont amené des faits pour justifier l'information? Et la deuxième question, c'est est-ce que, et ça c'est très important, est-ce que l'information vient d'une source fiable et une source réputée? Parce que
c'est là que tu deviens chiant. Pardon. C'est là aussi où tu deviens chiant, c'est que, et je reviens à mon histoire de 350 millions de pounds.
Ouais. Oui.
C'est que si tu dis, on va récupérer 350 millions, et de l'autre côté, t'as quelqu'un qui fait, alors, d'après le rapport machin chouette, il y a X millions, tout de suite, t'es beaucoup plus chiant quand tu parles comme ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, bien sûr, oui.
Oui, oui. Je veux dire, et c'est là où la moitié des gens t'écoutent plus. Si tu commences par dire dans le rapport, et c'est con, hein.
Et en fait, on en vient toujours au même, c'est que, en fait, on veut toujours avoir une information, et c'est pour ça qu'une des questions à se poser, c'est qui est-ce qui influence finalement et qui est derrière cette information. Parce qu'on voudra toujours vouloir écouter les gens qui nous disent une version de la vérité qui se rapproche de ce qu'on veut entendre.
Ouais.
Je sais pas si ça a du sens, mais
c'est vrai que c'est pas un réflexe de se demander d'où vient le chiffre.
Non, clairement pas, non.
Ou d'où vient l'information. C'est vrai que c'est pas un réflexe. C'est vraiment le réflexe qu'on doit avoir. C'est qui t'a dit ça, quoi. Où est-ce que t'as vu ça?
Et est-ce que c'est... Et en fait, je pense que ça devient un peu... Alors, j'avais vu une interview, c'était... enfin, je vous dirai après l'interview. C'est un truc qui s'était passé sur... on plaît pas... je vous dirai après la pause musicale. Mais, et c'était assez intéressant parce que, justement, le journaliste, il disait c'est quoi vos chiffres? C'est quoi les faits? C'est quoi vos chiffres? Et donc, celui qui avait écrit le livre disait mais c'est dans le bouquin. Et en fait, ça peut vraiment très vite tourner à une conversation un peu chiante, finalement, quand ben, c'est quoi tes faits, c'est quoi tes... Parce qu'en fait, ben, ça peut prendre énormément de temps de justement collecter toutes ces informations. Et oui. En fait, si on passe que du temps à donner les chiffres et donner les faits, ça peut jamais terminer la conversation, quoi.
Non, c'est sûr. Mais d'un autre côté, quand on a en face de soi quelqu'un, par exemple, comme Trump ou comme Boris Johnson, il faut vérifier.
Là,
quoi.
Je pense qu'il faut, oui.
Il faut vérifier parce que rien de ce qu'ils disent n'est vrai. Enfin, pas rien que... Non, là, c'est moi qui déconne. Mais je veux dire, ils exagèrent beaucoup les chiffres.
Ils influencent les faits de manière à faire... dire aux faits et aux chiffres ce qu'ils veulent que les gens entendent. Et donc, bref, la troisième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que les autres disent sur cette information? Et ça, c'est vraiment important, c'est recouper l'information. Parce que je trouve qu'énormément de gens prennent une source d'information, et c'est vrai que, bon, il y a des sources d'information qui sont réputées et fiables, mais il n'y a rien de mieux quand même que de recouper l'information. Et donc, justement, sur cet article que je lisais, ils disaient, ils expliquaient, en fait, on peut trouver énormément de sources. Et l'exemple, c'était combien de paille en plastique les Américains utilisent par jour. Et en fait, une des premières sources qui venait, c'était une source anonyme sur un réseau social et qui était influencée par le fait que c'était quelqu'un qui travaillait ou possédait une société de métallurgie, un truc comme ça. Donc, quelqu'un qui pouvait, en gros, produire des pailles en métal. Disait, les Américains utilisent 25 pailles en plastique par jour. Puis en fait, on apprend
chaque Américain.
Voilà, et donc ce qui paraît
ça fait beaucoup. Hein.
Mais bien sûr, mais à la limite, ils utilisent 35 pailles par jour. Et en fait, on dit ce qu'on veut finalement. Et en cherchant, finalement, non, c'est absolument pas. Ça devait être genre. En fait, il y avait déjà un niveau d'information qui allait entre, je sais plus, 175 à 500 millions ou milliards ou quelque chose comme ça par an. Et au final, c'est, je crois, un Américain, quand on calcule, doit faire une paille par jour, ce qui me paraît normal.
Ouais, enfin, c'est un peu trop, parce que sauf si tu as des problèmes de déglutition, tu n'as pas franchement besoin d'utiliser une paille.
Oui, oui, mais puis aussi, il y aura des gens qui les utilisent. Ouais, moi, j'en utilise pas jamais, par exemple. Ouais. Et donc, il y a des gens qui vont en utiliser beaucoup, s'ils ont des enfants. Donc, je pense que le volume me paraissait un peu plus réaliste.
Les enfants, les miens, parfois ils gaspillent des pailles parce qu'ils font des grandes structures et tout, mais c'est un peu con.
Alors, faut utiliser des pailles en métal, voilà.
Voilà, mais c'est beaucoup moins facile à emboîter.
Et c'est beaucoup moins facile à nettoyer aussi.
Oui.
Donc bref, donc c'était les trois questions. Je les répète, qui est derrière l'information? Quelles sont les évidences pour soutenir cette information? Est-ce que les informations ont été est-ce qu'il y a des faits pour soutenir l'évidence? Et est-ce que l'information vient d'une source fiable? Et enfin, qu'est-ce que les autres disent sur cette information? Donc, recouper les informations. Voilà les trois questions qu'il faut se poser.
Ok. Là-dessus, on se réécoute une petite musique, alors? On va mettre le mensonge de Vladimir Kosma. C'est tout court.
D'accord.
Merci, Victor, d'être d'accord avec nous. Il n'est pas contrariant, lui, hein. Voilà, c'était très court, sans parole, juste de la musique, à la Cosma. Alors, vérification de l'information. Donc on a nos trois questions d'après Virginie.
Et j'ai juste dit, ce que je posais la question avant qu'on remette l'antenne, est-ce qu'il est encore vivant, Vladimir Cosma?
Parce qu'il a... T'as vérifié l'information?
Et oui, il est toujours vivant. Il a 79 ans. Il est toujours parmi nous. Il n'a pas l'air d'être retraité non plus. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, parce que je l'ai re-regardé il n'y a pas très longtemps. L'étudiante. Avec Sophie Marceau et Vincent Lindon.
Ah ouais.
Et c'est lui qui avait fait la musique, il me semble, de ce film. Donc voilà, je l'ai regardé pour la 50e fois, je pense, il n'y a pas très longtemps.
J'avais une sœur qui connaissait ce genre de film par cœur. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc on se disait, en parlant de vérifier l'information, j'ai pensé à une autre chose. C'est par exemple, on a tous ça, hein, les gens qui forwardent des emails pas possibles avec des histoires abracadabrantes où il faut absolument courir à l'hôpital donner son sang, ou dans les posts de Facebook, ces gens qui ont disparu et en fait. Donc il y a des sites entiers de scams comme ça. Donc c'est c'est vraiment un de ces posts. Enfin, ces posts-là sont hyper faciles à vérifier. Et encore, en fait, il y a des gens qui font tourner ces informations et ça part en vrille. Ça fait perdre un temps fou. En fait, moi j'ai c'est vraiment juste fait pour faire perdre du temps.
Non, c'est fait pour faire. Alors à l'origine, on m'avait expliqué. Alors le pire, c'est les emails où faut envoie à 10 personnes et tu auras une bonne journée.
Ah oui.
Et ça, en fait, c'est pour faire des collections de contacts.
Ah d'accord. Et donc ceux où c'est les post viraux, c'est aussi pour faire des.
Alors moi, on m'avait expliqué parce qu'en fait, ça se suit. Et donc tu peux récupérer les adresses email dans l'historique de l'email. Donc en fait, si tu le fais partir et quelqu'un le récupère, et donc t'as tout l'historique de l'email, et donc t'as une collection d'adresses email que tu peux réutiliser pour envoyer des scams, ouais.
Des scams ou du spam.
Voilà. Et c'était un peu la logique de ce truc-là.
Est-ce que tu sais d'où vient le mot spam?
Je sais pas, le seul truc qui me vient, c'est pas l'espèce de jambon en conserve.
Ouais, mais tu sais pourquoi?
Non.
Parce que c'était un film... j'ai pas vérifié l'information, mais... Apparemment, c'était un film des Monty Python où ils faisaient tout le temps de la pub pour le spam toutes les 5 minutes.
Ah.
C'était une blague et donc c'est devenu...
Et non, en plus, je l'ai mis vraiment au hasard, le truc, le jambon en conserve.
Non, mais c'est vraiment pour ça. C'est
D'accord.
C'est parce que dans ce film-là, il y avait toujours spam, toutes les 5 minutes. Et
incroyable.
Donc, c'est devenu le spam, voilà.
Je l'ai dit vraiment au hasard. Ah, ça. D'accord.
Voilà. Donc oui, les posts viraux de machin chouette qui est perdu ou d'aller courir donner son sang parce que l'hôpital de Namur n'a plus de B négatif, il vaut mieux vérifier. Il y a énormément de sites en fait. C'est assez facile et assez rapide de voir. Et comme ça, les gens qui ont vraiment disparu, on fait tourner les vraies informations.
Et d'ailleurs, juste au passage, et là c'est un fait réel. Ce n'est pas une rumeur, c'est en Nouvelle-Zélande, si vous êtes français et vous avez envie de donner votre sang, vous ne pouvez pas donner votre sang si vous avez vécu en Europe. Alors, je ne sais plus au moment de la vache folle.
C'est uniquement les Anglais, non?
Non, c'est n'importe qui dans l'Union européenne.
Ah ouais?
Ah oui, alors c'est assez étonnant parce que quand moi je vivais en France, c'était les gens qui avaient vécu en Angleterre qui pouvaient pas donner de sang en France. Mais ici, c'est n'importe qui a vécu en Europe.
Ah bon? Parce qu'il me semble que
pendant la crise de la vache folle, ouais.
Ah.
Moi, je peux pas donner mon sang en Nouvelle-Zélande.
Parce que moi, il me semble que j'ai déjà donné. Ah oui, je suis sûre que j'ai déjà donné.
Bah non, moi non.
Peut-être que la Belgique, c'est pas considéré comme faisant partie de l'Europe. Ça, j'ai déjà eu comme question en Nouvelle-Zélande. Hein.
Ouais,
j'ai voulu passer mon permis, ils m'ont dit, c'est où la Belgique? C'est au Canada? Non, c'est en Europe.
Oui, c'est ça, c'est là-bas.
Voilà, et donc, le dernier endroit où je voulais parler de cet effet scam, spam et... et du fait qu'il y avait énormément de fausses informations. En fait, en science, nous, on a un problème dans la communauté scientifique, c'est qu'en fait, il y a toute une série de fausses conférences et de faux journaux scientifiques.
C'est incroyable, ça.
Et donc, et c'est surtout les jeunes chercheurs qui se font avoir. Et donc, en fait, le principe en général, il fonctionne toujours de la même façon, c'est qu'ils utilisent des noms de certains scientifiques connus, sans que le scientifique en question le sache. Ils les mettent éditeur ou auteur ou chair de la conférence ou du journal en question. Donc, ça donne une certaine crédibilité. Puis ils envoient comme quoi tu peux soumettre ton papier à mon journal super bien, et donc il y a des gens qui soumettent, et puis ils se trouvent et c'est des faux journaux, enfin, ou c'est des journaux qui sont ce qu'on appelle des journaux prédateurs, quoi, ou même des conférences prédateurs. Moi j'ai un collègue qui s'est un jour retrouvé perdu, et c'était clairement une fausse conférence, quoi.
C'est le Gorafi du milieu scientifique.
Mais
quoi.
Non, c'est un scam, donc c'est pour avoir ton argent, quoi.
Ah, c'est.
Non, et oui. tu te retrouves au milieu nulle part. Enfin, il y a quand même une conférence, mais ça n'a aucune valeur scientifique. Tu rencontres pas les gens que.
Oui. Alors, tu as une conférence. C'est quelqu'un qui te parle du vaudou pendant.
Oh, voilà, exactement.
Pendant une heure et demie.
Et donc ça c'est pour ce qui se passe au niveau des scams et des fausses informations au niveau scientifique. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quand même des articles qui sont publiés dans ces revues, puisque il suffit de payer en fait pour être publié. Et donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ce genre d'informations aussi, comme ils sont en général open source, donc libre d'accès ces journaux. En fait, il y a toute une série de fausses informations dans ces journaux qui sont là aussi, quoi. Donc, Virginie vient de vérifier l'information.
Oui.
Donc, en fait, je pourrais pas donner mon sang, mais je l'ai quand même donné.
Ah oui, donc en fait, je disais, par rapport au don du sang en Nouvelle-Zélande, la question pour l'éligibilité, c'est est-ce que vous avez vécu ou voyagé en Angleterre, Irlande ou France entre 1980 et 1996 pour plus de 6 mois. Donc, si vous avez vécu en France, ça compte aussi.
Ah, mais donc, moi, je suis belge.
Ah oui, c'est ça. En fait, c'est pas l'Europe. Donc, c'est l'Angleterre, l'Irlande et la France. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est pour ça que t'as pu donner.
C'est pour ça que moi, j'ai pu donner. Voilà.
Alors, si t'as pas voyagé en France ou vécu en France plus de 6 mois, t'as pas de problème.
Non. Voilà.
Donc, moi, je peux pas, comme je suis née en France, j'ai vécu forcément plus de 6 mois. Donc, voilà.
Voilà, donc moi je peux pas. Du coup, j'ai perdu mon fil. Ah oui, non, donc c'est le genre les articles scientifiques que beaucoup de gens utilisent aussi. Et donc en fait, il y a ça, c'est aussi une chose à vérifier, c'est que notamment tout ce qui est tous les gens qui font des campagnes anti-vax. Donc ils utilisent les articles scientifiques. Alors il faut savoir que il y a certains journaux qui en fait n'ont quasiment pas de crédibilité, parce que c'est des journaux qui sont comme ça, en fait, qui récoltent les articles. Parfois, c'est des journaux prédateurs, donc c'est toujours important de vérifier la crédibilité du journal. Donc notamment, il y a ce qu'on appelle le facteur d'impact. Donc le facteur d'impact, c'est combien de fois ce journal est lu et cité. Et donc, ça se voit assez facilement. Mais alors aussi, par exemple, ce que j'ai déjà vu dans certains articles anti-vaccin, quand ils citent une source ou quand ils citent un journal scientifique, en fait, ils font vraiment ils vont citer 4 mots d'une phrase.
Oui, qui va dans le sens.
De
leur article.
Par exemple, moi, j'avais lu un article comme ça. Il citait un article du British Journal of Medicine, qui est un des tout bons journaux. Je crois que c'est le British Journal of Medicine qui était un tout bon journal de médecine. Et en disant que c'était clair que ce vaccin causait des troubles du sommeil. Et en fait, j'avais été voir l'article. Alors là, c'est un des problèmes, c'est que ce genre de journal, en fait, c'est payant pour aller voir. Si tu fais pas partie d'une université, t'as pas accès, sauf si tu payes l'article, mais c'est $10 par article. Mm-hmm. Donc, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de faire. Et en fait, quand tu lisais l'article, c'était, il y avait genre un cas sur un million il y avait une personne. Et donc, il était mis, c'était, il est possible que ce vaccin cause des troubles de sommeil, car il y a eu un cas reporté, dans tous les
gens. En plus, je sais pas, je m'y connais pas, tu t'y connais beaucoup plus que moi, mais j'imagine qu'il y a des règles pour faire par exemple, sur les médicaments et les contre-indications, etc. Et les effets secondaires, j'imagine que sur un groupe témoin, quand on fait des tests, etc., pour pouvoir considérer qu'il y a des effets secondaires, j'imagine que c'est pas un cas, il doit y avoir plusieurs cas, il y a des, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle.
Oui, il y a des règles. Alors, je les avais regardées une fois, quand tu regardes les contre-indications et les effets secondaires, en fait, justement, c'est que pratiquement dès qu'il y a eu une fois l'effet secondaire, tu dois le mettre quasiment.
Ah d'accord. Donc il n'y a pas de règle en fait. Même si ça arrive qu'une fois, c'est un effet secondaire.
C'est peut-être pas une fois, mais c'est très très bas. Et en fait, c'est ça le gros problème, c'est qu'en fait, les effets secondaires de la non vaccination, la non vaccination, il y a beaucoup plus de risques. Par contre, forcément, ça va. Et alors aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tas d'effets secondaires. Tu sais pas toujours savoir si c'est dû au vaccin ou pas.
Oui, alors ça, je suis assez d'accord, parce qu'en fait, ça dépend, par exemple, le groupe témoin, j'imagine que tout le monde est différent sur ce groupe témoin, donc tout le monde réagit de manière différente.
Oui, mais aussi, parfois, tu peux avoir quelque chose qui arrive une semaine après, et si c'est que un sur les 100, qui ont été testés, comme c'est juste après avoir pris le vaccin, c'est pas toujours et c'est ça aussi qui est compliqué dans les articles scientifiques, c'est que quand tu regardes, c'est jamais si tu prends ça, c'est ça qui t'arrive, ça va toujours être dans 85% des cas, il est possible que, et ainsi de suite. Parce que c'est impossible de dire oui ou non. Surtout en médecine. Déjà, tu prends deux patients, c'est pas les mêmes. Tu peux prendre 150 000 patients, t'auras 150 000 cas différents.
Et puis, c'est le côté, alors, si vous faites vacciner, vous avez le risque de ça, mais en même temps, on vous dit pas, si vous prenez pas le vaccin, vous avez, voilà les conséquences. C'est ce que je te disais, par exemple, la polio, moi, je dis.
Oui.
Conséquences de la polio et ce que la polio fait aux gens, je ne sais pas si finalement...
Il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés, ça c'est clair. Il y a des gens chez qui les vaccins ne fonctionnent pas, ça c'est clair, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que toutes les autres personnes doivent être vaccinées, pour protéger ces personnes-là qui, elles, ne peuvent pas être vaccinées. Le vaccin ne fonctionne pas toujours.
Oui, mais tu vois, là, on parlait, c'était cette semaine, mercredi soir, là, on disait des risques de... Ou, non, pas des risques, mais je parlais du vaccin de la grippe. Et moi, j'étais persuadée que le vaccin mutait tous les ans. Et tu as dit, non, le vaccin mute.
Non,
le virus mute
tous les ans un petit peu. Mais il y a une grosse mutation tous les 5 ou 10 ans, ça dépend. C'est pour ça que quand c'est passé à H1N1 là, c'était un gros changement en fait.
Ah oui oui.
Et donc du coup ces années là c'est plus virulent entre guillemets parce que c'est relativement nouveau comme vaccin.
Et là, je comprends, en fait, par exemple, pour l'importance de vacciner les personnes âgées, par exemple, puisqu'eux, ils ont un système immunitaire beaucoup plus fragile.
Et puis, c'est surtout qu'ils sont, ils sont beaucoup plus prônes à faire des infections secondaires sur leur grippe. C'est la même chose avec les enfants, et c'est la même chose avec les gens qui sont à risque.
Oui, parce que ça arrive énormément, oui.
Voilà. Donc on a quand même réussi à parler des vaccins, mais...
Pas beaucoup, il ne nous reste pas longtemps, il me semble 5 minutes, même
voilà.
Pas.
Et une chose, c'est qu'on parlait de beaucoup de mercredi soir, c'est parce qu'on fait des réunions de programmation une fois de temps en temps, que tous ceux qui veulent venir nous rejoindre à la radio, parler en français de tous les sujets qui les intéressent, vous pouvez nous faire signe, soit sur Facebook, par email...
Ou si vous voulez apprendre à faire la technique, comme
voilà.
Victor.
Comme Victor, vous n'êtes même pas obligé de parler, hein, Victor. Et alors, il rallume vite son micro et il va dire Non. Est-ce que t'es obligée de parler si tu fais la technique?
Non.
Est-ce que c'est sympa de faire la technique?
Oui.
Ouais, ça t'amuse bien, ouais.
Oui.
Oui. Voilà. Donc ça, c'était les.
C'est la relève de la technique.
C'est les quatre mots de Victor. Donc si vous voulez faire juste la technique, vous.
Et pas parler.
Vous pouvez vous en sortir avec 10 mots. Voilà, 10 mots. Voilà.
Ça se passera très bien aussi.
Et vous avez le droit de choisir la musique aussi.
Et oui, et ça c'est important. Donc oui, si vous avez, si vous voulez nous contacter, c'est pas un problème. Vous et si vous voulez juste faire juste une petite séance, savoir si ça vous plaît, hein, c'est pas, vous n'avez pas de contrat, vous ne signez pas de contrat. Par contre, vous n'êtes pas payé. Voilà, ça sera
c'est
que
entièrement gratuit, mais on s'amuse bien.
C'est du bénévolat, mais en tout cas, on est une bonne équipe, dynamique et on s'entend tous très bien. Donc voilà, faites-nous signe si vous êtes intéressé.
Une fois par trimestre, on se passe une petite soirée pour programmer nos émissions.
Voilà, donc au niveau, ça, si c'est juste histoire d'avoir une nouvelle expérience, bah écoutez, n'hésitez pas. Je crois qu'on a plus ou moins tous commencé comme ça, en tout cas, par curiosité. Et puis,
ouais,
et on est resté pour les gens. Voilà. Voilà.
Ok, donc, j'avais une annonce que je n'ai pas faite au début, puisqu'on a eu un petit dérapage au début. Et c'est les 25 ans de Friends cette année, pour ceux qui savent ce qui est Friends.
Friends, oui.
Friends, donc ceux qui ont monté les écoles bilingues. Donc il y en a deux à Auckland maintenant, il y en a une à Christchurch et il y en a même une à Wellington qui va s'ouvrir ou qui vient de s'ouvrir.
Et d'ailleurs, petite pensée à... J'essaie de me souvenir de son prénom, c'est la personne qui a créé Friends en Nouvelle-Zélande.
Nadine Plett.
Nadine Plett, voilà, c'est ça. Voilà. J'ai rencontré il y a quelques années, donc voilà, on fait une petite pensée pour Nadine qui a créé cette école à Richmond Road.
Voilà, et d'abord les petits lascars.
Et donc aussi, je voulais parler juste vite fait d'une série qui est sur Netflix, que je recommande vivement, et je la trouve vraiment très très bien. Il n'y a qu'une saison et j'espère vraiment qu'il y aura une autre série.
C'est en français ?
C'est en français. Si vous ne connaissez pas, en français ça s'appelle Zone Blanche, ça se trouve sur Netflix et ça s'appelle Black Spot. Ça se passe dans un village qui s'appelle Villefranche, il y a des meurtres, etc. Mais il y a un côté... science-fiction un peu sombre mais plein d'humour et en tout cas très 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 bien. Je vous recommande vivement. Voilà.
Moi j'ai vu plein de films dans l'avion français, il y a vraiment plein de films français qui sont sympas pour l'instant.
Et j'ai pas alors je juste comme ça n'a pas de français, c'est international que je ne suis pas encore allée voir, c'est le Roi Lion, je ne sais pas si quelqu'un est allé le voir. Non. Dans l'équipe, merci de bien vouloir nous en parler dans les prochaines
émissions.
Voilà, les prochaines émissions.
Je suis sûre
voilà.
qu'on va parler de Jojo là, Rabbit Jojo, comment ça s'appelle le dernier film?
Jojo Lapin.
Jojo Rabbit. Voilà. Ça, j'ai envie d'aller voir. Ok, alors on va se quitter en musique. Donc c'était Virginie et Fred.
Ouais, merci à tous.
En
et
duo
on vous passe une bonne semaine.
Sur Fact Check et Victor à la technique. Et il va nous mettre quoi comme musique, Victor?
Bah, je sais pas.
Bah, choisis.
La prochaine.
La prochaine.
Il y a quatre marins.
Mais ah bah voilà, vas-y, il y a quatre marins.
Il est encore en formation, on lui excuse.
Voilà. Il est très jeune. Alors, voilà, les quatre marins.
En tout cas, merci Victor.
Il y a quatre marins sur la mer, loin de leur amitié. Quatre marins sur la mer, loin de leur amitié. Quand ils viendront à terre, j'ai la 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 li. Nous les ferons danser, j'ai la 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 ride. Quand ils viendront à terre, j'ai la 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 li. Nous les ferons danser, j'ai la 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 ride. Et la vague est profonde et le vent déchaîné. La vague est profonde et le vent déchaîné. De l'horizon qui gronde, monte une houle sans pitié. C'est la misère du monde qui cogne au chalutier.
De l'horizon qui gronde, monte une houle sans pitié.
C'est la misère du monde qui cogne au chalutier.
souffrance pour les gens de la mer.
Pour les gens de la mer.
Y a bien de la souffrance pour les gens de la mer.
Pour les gens de la mer.
Le cœur plein de vaillance, dur au labeur solitaire. Aux croisées de l'absence, ils chantent leur calvaire.
Le cœur plein de vaillance, dur au labeur solitaire.
Aux croisées de l'absence, ils chantent leur calvaire.
Sauveteur
a entendu leur prière, bravant le diable et la paix.